France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Psychologie.
Musique et moi.
Philippe Geluck.
Elsa Boublil.
Le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres.
C'est sur cette danse de la mariée, un air traditionnel bulgare, interprété par les yeux noirs, que nous accueillons Philippe Geluck, peintre, sculpteur, humoriste, chroniqueur et dessinateur du chat, célèbre personnage de la BD depuis 36 ans et demi, j'ai calculé, puisqu'il est né en mars. Hein.
Le 3 mars 83, donc parfait, votre calcul est pile poil.
Donc un personnage dont les albums ont été vendus à plus de 14 millions d'exemplaires à travers le monde, en tout cas à travers la francophonie, qui sera bientôt présent et à l'honneur du futur musée prévu à Bruxelles en 2023, et puis surtout à Paris, 20 chats en bronze en exposition sur les Champs-Élysées en avril 2020.
Voilà.
Ça, c'est une belle perspective.
Oui, je trouve. Je succède à Botero, qui avait fait ça en 92, et donc il aura fallu attendre encore quelques années, mais on y est. Et notre point commun, c'est les gros.
Le chat. D'accord, très bien. Et le bronze.
Bien entendu. Et puis le talent. Et le...
Vous venez de signer votre 22e album chez Casterman, La Rumba du chat, tchiki tchiki tchik, aïe aïe aïe, c'est important quand même.
Bah oui, ça dit un peu tout.
Et avec voilà cette présence donc de la musique, c'est pas la raison pour laquelle on vous a invité, mais néanmoins, ça faisait écho.
Et pourtant, c'était mon seul but en trouvant le titre de cet album, c'est de me dire peut-être qu'à cette occasion-là, je vais être invité chez elle.
Le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai choisi de vous diffuser Les Yeux Noirs pour commencer avec cette danse de la mariée. Il y a quelque chose de très dans l'altérité, en tout cas. On sent que vous avez besoin des autres pour vous-même être heureux.
Ah oui, forcément. Je veux pas. J'utilise rarement une terminologie propre au chat pour dire je donne un coup de griffe, je ronronne. Des... Mais là, clairement, et encore, on a eu mes petits-enfants ce week-end à la maison et ma femme me dit, t'as l'air de ronronner de bonheur tellement quand je suis entouré de je suis comme ça. Mais je pense profondément que on peut se sentir bien dans sa tête et dans son cœur quand on arrive à faire rayonner le bonheur autour de soi et qu'on voit les autres heureux aussi parce que on leur a apporté quelque chose, parce qu'on leur a fait à manger, parce qu'on leur a parlé comme il fallait, parce qu'on a eu des attentions qui les ont touchés. Et le bonheur, vous savez, il y a un proverbe arabe que vous connaissez sans doute qui est magnifique, qui dit partage ta maison, elle ne change pas, partage ton gâteau, il diminue, partage ta joie, elle augmente. Voilà, ça dit tout.
Donc cette danse de la mariée, justement, ce folklore bulgare pour démarrer.
Ah mais ça me touche pour deux raisons, parce que d'abord c'est joyeux parce que c'est un mariage et c'est une fête, et puis il y a cette mélancolie propre à la musique des Balkans qui est dans l'âme slave et qui me touche infiniment aussi. Ça vient de mon enfance, élevé par des parents militants communistes, amoureux des pays de l'Est. On passait nos vacances en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, en Yougoslavie. J'ai été garde rouge, moi, dans une troupe de scouts en Tchécoslovaquie. Enfin, voilà. On le raconterait dans un film, ça, qui n'a pas rêvé d'avoir des parents communistes. C'était ça. J'allais jamais au cinéma avec mes parents. On allait parfois au spectacle, mais c'était pour voir le cirque de Moscou ou les ballets Moïseïev ou les chœurs de l'armée rouge. C'est un petit peu mon enfance. Donc, cette danse de mariage bulgare me touche à plus d'un titre.
Alors, Pierre et le loup tombent pile poil, on pourrait le dire ça. Philippe Geluck, puisque vous êtes l'invité de Musique et moi et qu'on va démarrer votre biographie avec l'enfance musicale, bien sûr.
Il était temps. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche, plus près, encore plus près. Il le rattrape, s'en saisit. Et l'avale d'un coup. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous les deux avec des yeux gourmands.
Valérie Lemercier interprète avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Tougan Sokiev, Pierre et le Loup, de Prokofiev. Alors, Philippe Geluck, c'est cette enfance tournée vers le bloc communiste qui vous a emmené à apprendre, à connaître cette œuvre enfant ?
Oui, j'ai été initié à tous les grands compositeurs russes. J'ai aussi été, de par la profession de mon père, qui était distributeur de films en Belgique, de pays venant de l'Est, on n'avait pas la télé à la maison. En revanche, il ramenait de temps en temps, en tramway, un projecteur 16 mm pour nous passer des films de Poudovkine, de Bondarchuk, etc. Donc j'avais une culture qui était complètement décalée par rapport à celle de mes camarades à l'école. Mmh. Et chez moi, j'avais punaisé au mur des photos d'acteurs russes qui venaient dîner à la maison quand leur film sortait à Bruxelles, dédicacées à moi en russe. Et mes copains disaient, mais c'est qui ? Alors je dis, c'est qui ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est apprécié par des centaines de millions de spectateurs dans son pays et tout. Et j'étais le seul enfant à avoir des photos de ces gens-là à mon mur de la chambre.
Et Pierre et le Loup, alors ?
Alors, et Pierre et le Loup, alors on écoutait des disques sur un gramophone qui venait de mes grands-parents ou alors sur l'électrophone de mes parents. Et ça doit être la version avec Gérard Philippe et l'orchestre. Enfin, dans les disques Mélodia, on a avec des disques Mélodia et Supraphone, tchèque ou russe. Donc ils m'ont initié à la musique classique. On n'écoutait que ça. Ma mère avait fait des études de chant soprano au conservatoire et donc en passant l'aspirateur, elle chantait la flûte enchantée. Et quand on me faisait écouter la musique, c'était ça ou Mozart. On en parlera sans doute plus tard. Mais pour Pierre et le Loup, je me suis rendu compte, des années plus tard évidemment, que dans l'œuvre de Prokofiev, le chat est interprété par une clarinette. Or, mes parents m'ont proposé d'étudier la clarinette, ce que j'ai fait.
Ah, mais c'est psychanalytique tout ça.
À mon avis, tout vient de quelque part. Et récemment, on est allé voir avec les petits-enfants Pierre et le Loup au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Et mon petit-fils, qui a maintenant 7 ans, je crois qu'il avait 5 ans et demi à l'époque, voilà, il avait adoré tout, on rentre à la maison. Et je lui avais offert une figurine du chat en chromé. Et je lui avais dit, je peux pas te la donner normalement parce que c'est un prototype et il n'y a qu'un exemplaire au monde de celle-là. Et puis il avait insisté, j'ai dit, je te la donne, évidemment je te la donne, je peux rien lui refuser, il adore, il collectionne tous les chats comme il le peut. Et 2 heures plus tard, il y a sa petite cousine, Billy, qui vient le voir, et il dit, hey Billy, viens voir, et il lui montre la statuette et il dit, regarde, c'est un Prokofiev. Voilà, joli mot d'enfant.
Philippe Geluck, on va pouvoir parler de cette enfance avec vos parents, on va pouvoir parler de la clarinette et de Mozart, puisque c'est l'œuvre qu'on va écouter dans quelques instants, mais vous êtes né à Bruxelles, vous vivez toujours à Bruxelles, c'est la vie à Bruxelles ?
J'aime cette ville, alors j'y suis né, j'ai vécu hors de Bruxelles pendant 30 ans, à la campagne, et quand les enfants ont quitté la maison, à l'âge de 18-20 ans, on s'est dit, ma femme et moi, est-ce qu'on va rester vivre au fond des bois, loin de partout. Il fallait prendre une bagnole pour aller chercher un pain ou un journal, donc c'était pas possible. On est revenu habiter à Bruxelles. Donc j'ai pas quitté cette ville. J'ai vécu... on avait grandi dans une grande maison où il y avait 2 familles, ça c'était passionnant. Et puis, que dire d'autre ? Qu'un jour, mes parents ont voulu me donner envie d'étudier un instrument de musique. Mon frère avait appris le piano. Comme on passait tous les week-ends à la campagne chez mes grands-parents, c'était compliqué d'emporter le piano avec nous pour qu'il travaille et qu'il fasse ses gammes. Et donc, ils m'ont dit, choisis plutôt un instrument léger. Alors, ils m'ont montré un petit peu les possibilités et ils m'ont fait écouter l'adagio du concerto pour clarinette de Mozart. Et après, j'ai plus eu le choix.
Thank you.
Patrick Messina avec l'Orchestre National de France sous la direction de Riccardo Muti interprétait l'adagio du concerto en la majeur de Mozart. Vous avez aimé,
Philippe Deluc? Je suis pas de son niveau, hein, honnêtement. Si vous m'entendez.
Oui, il est assez exceptionnel quand même.
J'ai joué, mais je pense que je l'ai croisé un jour dans le hall de la maison de la radio et je lui ai raconté une anecdote qui m'était arrivée. Vous savez, à Bruxelles, la remise des prix en fin d'année pour toutes les écoles de la ville de Bruxelles se faisait au Cirque Royal. Ouais. Et donc, on faisait des spectacles pour les familles qui venaient. C'était rempli. Il y avait 3000 parents qui étaient là. Et un jour, donc, sachant que nous jouions de la clarinette, un camarade et moi, au milieu de tous nos autres camarades qui jouaient, eux, de la flûte à bec, on avait répété un petit morceau qu'on allait jouer. Et poum poum, on arrive au milieu du centre. C'est un cirque, hein, à l'ancienne, comme ça, sur la piste. Et on commence à jouer. Et je joue parfaitement ma partition, sauf que dans les notes graves, ça fait pfff, pfff. Il n'y a pas un son qui sort. Et je suis paniqué. Heureusement, il y a l'autre clarinette qui donne le change. Et nous sortons de scène et je remarque que j'avais oublié d'enlever la peau de chamois que vous savez qu'on a dans l'instrument
dans le
pour
baril.
Le nettoyer après avoir joué. Et j'avais laissé dedans et donc ça a fait surtout pff, pff, pff. Voilà, honte sur moi.
Donc ce concerto, vous l'avez interprété, c'était pas à cette occasion-là?
Non, je me suis produit... plusieurs fois, dont une fois en famille et une autre fois pour un concours de fin d'année, voilà, où j'avais donné tout ce que je pouvais, mais honnêtement, je suis pas musicien, je respire pas la musique, j'adore la musique, mais je ne joue pas très bien. Et en revenant de ce concours, ma mère et mon frère m'avaient dit, ouais, c'était pas mal, mais l'autre là qui est passé avant toi, lui, on sentait qu'il interprétait son morceau. Toi, t'as juste joué les notes.
Ça va, ça vous a pas
chouette,
vexé?
Chouette famille.
Hein. Ouais.
Bon, c'est pour ça que je me suis dirigé vers le dessin.
Oui, je comprends.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et puis le concerto pour clarinette de Mozart nous fait évidemment penser à Miloš Forman qui a réalisé ce film magnifique Amadeus. Je crois Miloš Forman que votre père a distribué, c'est ça?
Voilà, mon père a distribué tous les grands cinéastes de l'Est. Il a débarqué là du côté de l'Union soviétique depuis Bruxelles dans les années 50. Donc c'est lui qui a distribué Quand passent les cigognes, qui a été ce fameux succès planétaire d'un film russe. Et puis il a découvert des grands réalisateurs comme Forman, comme Tarkovsky, comme Polanski en Pologne, comme Vajda et tout ça. Et il a été le premier à les distribuer en Europe occidentale.
Et vous avez souvenir de quand vous avez vu Amadeus, ou vous étiez déjà grand peut-être?
Oh, j'étais grand, non. Oui, non, là je pouvais regarder des films américains aussi. Parce que, le film de Forman pour mon père, c'était Les Amours d'une Blonde.
Oui.
Film fait en Tchécoslovaquie.
D'accord,
et basta. Chacun se souvient où il était quand il a appris l'assassinat de Kennedy. Est-ce qu'on se souvient de où on était quand on a vu Amadeus? Ah ben oui, au cinéma, tiens.
Oh,
Philippe Hervaigue dirige le chœur et l'orchestre du Collégium Vocal de Gand dans l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Réjouissez-vous, exultez, louez ce jour. Ça tombe bien à quelques jours de Noël, Philippe Gueluc. Mais c'est un autre souvenir d'enfance. Vous l'avez chanté là, je vous ai vu le chanter.
Ah non, oui, mais je le connais, je peux le chantonner avec eux. Hein. Sans eux, c'est ridicule. Mais c'est surtout un souvenir d'enfance parce que je sentais monter Noël. On le mettait, mes parents le mettaient à toute berzingue pendant les semaines qui précédaient
Noël. Pour accueillir la fête.
Oui, alors on était une famille de bouffeurs de curés, donc c'était pas du tout genre messe de minuit.
Ça se voit de temps en temps avec le chat.
Oui, mais écoutez, moi je suis un omnivore, donc je mange tout ce qu'on me... Si c'est bien préparé, le curé, ça peut être délicieux. oui, l'oratoire de Noël, c'est tellement, tellement beau. Mais j'écoute, chaque semaine, chaque week-end, ma femme me demande, m'oblige de jouer au Scrabble avec elle.
J'ai appris ça le matin.
Matin, après-midi, enfin, elle n'a de cesse de me tourmenter. Si on n'a pas fait les 6 parties dans la journée, elle se sent
abandonnée.
Et comme je travaille énormément toute la semaine, je me dis, oui, je lui dois bien ça. Donc, je joue comme un crétin, je perds, elle me pile. Voilà. Et la seule compensation, c'est que je mets pas trop fort, parce qu'elle la déconcentre, des cantates de Bach pendant ce temps. Voilà.
Philippe Gueluc, le dessin, c'est venu très tôt, je crois. Vous tapissiez vos toilettes de dessin, si j'ai bien compris.
Bien avant ça, à l'âge de 3 ans, j'ai dessiné sur le mur de ma chambre. J'avais attrapé, je sais pas, un pastel gras, je sais pas quoi, et j'ai fait un truc. Je le garde en mémoire. C'était un immense nuage vert. On ne savait pas si c'était un nuage radioactif ou des épinards ou quoi. Enfin, c'était énorme. Et ma mère a failli tomber dans les pommes. Ils ont dû passer 15 couches de peinture pour atténuer la tâche. Et ensuite, j'ai perfectionné mon style, j'ai commencé à dessiner des petites histoires en bande dessinée et puis à me rendre compte que je pouvais faire rire les autres à travers le dessin. J'étais passionné par Harakiri, par la revue Bizarre publiée par Jean-Jacques Pauvert, donc que des lectures, pas pour mon âge. Je lisais ça quand j'avais 8-9 ans.
Mais on m'a dit qu'il y avait...
Ah, j'adorais, je ne comprenais que ça. Je ne comprenais pas pourquoi mes camarades lisaient Tintin et Spirou, alors que Harakiri, c'était d'un niveau tellement supérieur. Mais on m'a dit que de jeunes enfants, aujourd'hui, lisent le chat à partir de 7-8 ans. Donc ça m'enchante, parce que, voilà, c'est qu'ils ont mauvais esprit, comme j'aime. Et s'ils peuvent cultiver ça, ça va faire des adultes formidables. Pour autant que j'en sois un moi-même et qu'on ne se dise pas de moi que j'ai mal tourné. Non, le dessin d'humour, le recul, le second degré, je m'étais nourri de ça. Et donc, le mur des toilettes à ce site particulier, c'est que nous habitions cette maison qui était partagée par 2 familles. Les toilettes étaient à l'entresol et mon frère et moi, y tenions un journal mural, un Daddy Bao. Donc, ça faisait rire toute la maison. On commentait l'actualité de la maison et celle du monde avec des dessins, des montages photographiques, etc. Et un jour, un laveur de vitres qui passait travailler, enfin parce qu'il y avait beaucoup de carreaux aussi, est passé dans les toilettes, il a vu ça, il est sorti de là, il a dit à ma mère ce qui fait ça, elle dit c'est mon fils, elle dit il faut absolument que je montre ça à un ami qui dirige une revue de dessins d'humour. Il a emporté des dessins, il les a montrés, c'est comme ça qu'à l'âge de 16 ans, j'ai publié mes premiers dessins rigolos.
Thank you.
Extraordinaire presto du Quatuor à cordes numéro 8 en mi mineur opus 59 de Ludwig van Beethoven interprété par le Quatuor Eben. Les Quatuors à cordes de Beethoven, je crois Philippe Deluc, font partie des musiques que vous aimez et que vous connaissez sur le
bout
des doigts.
Mais d'entendre cette interprétation me donne envie de l'acquérir parce que j'ai l'intégrale par le Mélos Quartet qui est plutôt pas mauvais dans son genre.
Mais il y a
quelque chose de plus, hein. Ouais. S'il entendait ça, Ludwig, il se dirait, enfin, s'il voyait ça plutôt, s'il voyait les mecs jouer son quatuor.
Alors, est-ce que vous saviez que celui-ci a été composé la même année, en 1806, la même année que le concerto pour violon, qui fait partie des œuvres que vous aimez écouter par-dessus tout?
Ah, ben alors, il doit y avoir quelque chose tout de même. Comme quoi, hein, je le savais pas, parce que je suis pas bon en histoire de la musique, je connais pas tout ce que vous me dites là. Mais ça fait partie aussi des fondamentaux. Je me demande comment peut-on vivre sans ça. Moi, je peux pas. J'ai l'impression que c'est mon oxygène. Enfin, j'ai tellement besoin de ça sur le plan de l'apaisement intérieur, mais sur le plan aussi émotionnel. J'ai l'impression que ça réveille des parties de moi qui sinon sont un peu assoupies.
Ça correspond à quel moment de votre vie? Parce qu'assoupi, c'est pas l'impression que vous donnez quand on vous lit.
Non, parce que je dis des parties de moi.
D'accord.
Vous savez, comme certaines gymnastiques réveillent certains muscles, on se rend pas compte, mais qu'un exercice qui a l'air de rien, vous le faites pendant 10 minutes, le lendemain, vous pouvez plus marcher parce que ça fait des courbatures terribles. Et j'ai l'impression que tous nos sens ne sont pas utilisés en permanence. Mmh. On met des choses un petit peu en sommeil parce qu'on se concentre sur autre chose. Là, je suis sur la peinture, du dessin et de la sculpture, donc peut-être que mes oreilles, ces trois disciplines dans lesquelles les oreilles ne sont pas forcément sollicité. Et donc j'ai besoin de les... c'est pas de l'entraînement, c'est beaucoup plus que de la gymnastique, mais de les nourrir, voilà, de ces musiques-là. J'écoute beaucoup la radio, je peux pas écouter de la radio parlante pendant que je cherche des idées ou pendant que j'écris, donc je peux le faire quand je sculpte ou je peins. Je peux écouter de la musique en revanche quand je dessine, ça c'est fabuleux. Et puis j'aime aussi tout à coup ne rien faire d'autre et écouter et totalement me tendre vers cet art-là.
Et ça correspond à quel moment de votre vie, ces quatuors à cordes de Beethoven? C'est quand vous vous êtes mis à dessiner, justement, quand vous avez commencé à vraiment vous plonger dans cette activité entièrement ?
Alors c'est compliqué de situer dans le temps, mais comme à la maison, on m'a toujours fait écouter de la musique classique et seulement deux chanteurs en français, c'était Léo Ferré, sans doute pour son côté anarchiste, et Jean Ferrat, mais dans une seule chanson,
c'est
Potemkin.
C'était de gauche.
Oui, évidemment, c'était obligé. Et non, alors j'avais aussi, j'ai finalement souvent été décalé par rapport à mon... Comment dire ?
Entourage.
À mon, oui, moi, plutôt mes camarades. C'est-à-dire que j'avais des photos d'acteurs russes dans ma chambre. J'écoutais de la musique classique quand eux écoutaient du twist ou enfin un peu au-delà du twist, mais enfin de la variété. Oui, c'était après ça. Je suis pas si vieux que ça quand même. Mais mon frère écoutait les yéyés. Après, je me suis mis à la pop et au rock, mais par moi-même. C'est pas mes parents qui m'ont initié à ça. Mais je jouais de la clarinette. C'était pas commode pour emballer les filles parce que c'est toujours celui qui jouait de la guitare qui partait avec elle. Moi, le temps que je démonte ma clarinette, que je l'essuie à la peau de chamois, elles étaient ailleurs. Donc, mon enfance a été un peu compliquée. À un moment, le début de mon adolescence a été un peu pathétique. Et tout à coup, à 16 ans, je me suis acheté des lunettes rondes.
Que vous avez gardées.
Je me suis laissé pousser les cheveux, que je n'ai pas gardés. Et tout le monde m'a dit que je ressemblais à John Lennon. Et là, ça a été la fin de l'acné et le début de ma vraie vie.
Et c'est là que vous êtes lancé dans le théâtre.
Oui.
L'ouverture de l'opéra de quatre sous de Kurt Weill par la Sinfonietta de Londres sous la direction de David Atherton. Voilà vos premiers souvenirs de planche, je crois, Philippe Geluck.
Alors, c'est pas la musique, je connaissais la musique avant d'avoir interprété le rôle. Mais ouais. J'ai joué assez jeune, à 24 ans, le rôle de Maki dans l'opéra de quatre sous, mis en scène par Henri Ronce dans des décors de Franz Salieri. Et donc, j'ai dû chanter sur scène, vous m'imaginez moi, chanter sur scène devant des salles de 2000 personnes sans micro. Tout le rôle de Maki dans l'opéra de quatre sous avec un orchestre qui jouait dans la fosse.
Donc vous n'avez pas arrêté la musique aussitôt que vous l'ont conseillé votre frère et votre mère.
J'ai arrêté la clarinette, sauf que, et vous m'en parlez, ça me revient, mais au milieu de la pièce, à un moment, Henri Ronce, sachant que je jouais de la clarinette, m'a fait jouer un air à la clarinette. Il y a le chef d'orchestre qui me passait une clarinette et Maki jouait un air. Et je jouais un air de Mahagoni, autre pièce de Brecht.
Et de Weill.
Ça a été une expérience fantastique. J'ai joué 85 fois ce rôle dans des très grands théâtres, en Suisse, pas en France malheureusement, en Belgique, en Suisse, mais jusqu'en Yougoslavie. Mais c'est... Alors maintenant, je suis plus comédien depuis longtemps. J'ai été comédien pendant 10 ans, de 75 à 85. Et il m'arrive encore aujourd'hui de faire un cauchemar qui est récurrent et dans lequel cette musique intervient. C'est-à-dire que dans mon rêve, je suis dans les coulisses du théâtre. 20 ans après avoir joué la pièce, l'orchestre commence à jouer l'ouverture de la pièce. Je suis là dans mon costume, je vais devoir entrer en scène et je me rends compte que je n'ai même pas relu la pièce. On n'a pas fait une répétition de raccord, rien. J'arrive de chez moi, je dois jouer la pièce. Et là, je me précipite sur la brochure pour voir quelle est au moins ma première réplique, pour pas avoir l'air complètement ridicule dès mon entrée en scène, et je ne retombe pas sur la page. Et c'est à ce moment-là que je me réveille.
Et vous faites toujours le cauchemar,
là. Oui, oui.
Et alors, est-ce que c'est cette angoisse qui vous a fait arrêter complètement de monter sur scène, ou
non,
c'est simplement parce que vous avez vraiment trouvé votre voie avec le dessin?
Non, c'est ni l'un ni l'autre.
Ah,
en fait, j'ai quitté le métier, effectivement, des planches, pour trois raisons. D'abord, je me suis arrêté sur un très beau souvenir. J'avais joué plus de 250 fois Un certain plume de Michaud, mis en scène par un Polonais formidable, qui s'appelait Andrzej Bujinski, que je salue s'il nous écoute. Ensuite, mes enfants étaient nés à ce moment-là, et je me suis rendu compte que la vie n'aurait sans doute pas le sens que je voulais lui donner si tous les soirs je partais jouer une pièce, donc raconter une histoire à des gens que je ne connaissais pas sur diverses scènes, sans en raconter une à mes enfants que je mettrais au lit.
Mmh.
Et j'ai choisi la version 2, la solution numéro 2. Et la troisième raison, qui est sans doute plus difficile à avouer, c'est que je me suis rendu compte un jour que j'étais sans doute pas le comédien le plus important de la profession à cette période-là, et que j'avais des choses meilleures à faire ailleurs. Et donc j'ai quitté le métier, et la preuve, c'est que le métier ne m'a jamais rappelé.
James Bowman avec Christopher Hogwood qui dirige l'Academy of Ancient Music dans cet extrait du Stabat Mater de Vivaldi, une œuvre que vous avez en mémoire, dont vous aimez l'interprétation. Vous m'avez tout de suite dit, Philippe Gueluc, c'est James Bowman.
Oui.
Ça fait partie des œuvres que vous écoutez pour travailler ?
Oui, absolument, qui est inspirante. Parce que je connaissais avant, ça a été un véritable choc, parce qu'on connaît tous forcément les quatre saisons de Vivaldi, et je m'arrêtais un peu à ça, en me disant, tiens, c'est du truc de téléphonique, et puis voilà. Et puis, un ami comédien m'a fait...
C'est-à-dire que vous vous intéressez pas à Vivaldi à cause des quatre saisons, c'est ça ?
Oui, voilà.
Ah, d'accord.
En disant, c'est peut-être un peu facile, c'est la pizzeria italienne, et puis c'est tout. Et peut-être que dans ma famille, mes parents avaient un peu de mépris pour l'apparente facilité d'écoute de Vivaldi. Et puis on n'avait pas édité à l'époque autant de choses qu'on a exhumées ensuite et les sonates et puis les trucs et puis toute l'œuvre, le Stabat Mater. Mais tout à coup, tombé comme ça dessus par l'intermédiaire d'un ami comédien. On jouait Roméo et Juliette au Théâtre National et il m'a dit, est-ce que tu as entendu ça? Et c'était sorti en 33 tours chez L'Oiseau Lire à l'époque, et il m'a fait écouter ça et je suis tombé de ma chaise. Et je me suis effectivement un petit peu coincé là-dedans, James Bowman et Christopher Hogwood. Et puis vous me dites que Jaroussky a une version absolument sublime, donc que je vais aussi essayer de découvrir, parce que je me dis, je suis à un âge où il faut plus rester sur des acquis, mais continuer à découvrir des choses. Donc on a l'impression que quand on a trouvé la perfection, elle est définitive, et je ne sais pas ce que seront les autres interprétations, mais en tout cas, elle mérite d'être écoutée. Et surtout, il y a un souvenir professionnel, c'est que j'avais tourné dans un téléfilm, et le réalisateur m'avait fait tourner un premier rôle qui était celui d'un assassin d'enfants aux États-Unis qui devait passer à la chaise électrique. Et donc, une partie du rôle se passait avec une cagoule noire sur la tête, ce qui est chouette pour la carrière d'un jeune comédien. Et ensuite, il m'a donné un autre rôle, et c'est un type qui prend en otage la mémoire informatique d'une multinationale. Et lui, il porte une cagoule complète et des lunettes noires. Et on s'étonne après que j'ai pas fait carrière. Bref. La musique de ce deuxième téléfilm était en partie le Stabat Mater de Vivaldi, mais qu'il avait demandé à un autre groupe. C'était une violoniste, voilà, c'était pas au niveau. Et je trouvais ça tellement triste. Et je lui ai fait écouter le Christopher Hogwood, et il m'a dit, mais si tu m'avais apporté ça plus tôt, ça aurait changé les choses, mais il était trop tard. Donc finalement, il y a beaucoup de rendez-vous manqués pour moi dans ce métier.
Dans ce métier-là.
Musique et moi. Elsa Boublil, France Musique.
Mais alors justement, Philippe Gueluc, j'aimerais bien que vous nous racontiez à quel moment arrive le chat, et surtout à quel moment vous décidez que le chat vous accompagnera comme ça, parce que je crois qu'il est né avec votre fils à peu près, pour annoncer la naissance de votre fils.
Non, en fait, au départ, il y a un ancêtre du chat qui est né sur mon carton de mariage, où j'avais remercié tous ceux qui nous avaient fait des cadeaux par un petit carton qui va faire rire tout le monde, parce que j'avais représenté une madame chat, les yeux papillonnants. Quand on ouvrait le carton, on voyait un monsieur chat qui l'a lutiné allègrement, et on remerciait pour les gentils cadeaux. 3 ans plus tard, le fils naît, je refais un carton avec un bébé chat et tout, et 3 mois après... On est en mars 83, et là, il y a le journal qui cherche un dessinateur, le journal Le Soir, à Bruxelles, qui tirait à l'époque à 350 000 exemplaires, qui cherche un dessinateur pour illustrer un supplément temps libre du mardi. Et on est 4, concertés, appelés, c'est une sorte de casting. Et la veille au soir, le journaliste qui m'avait mis sur le coup me dit, attends, c'est pour demain, faut pas déconner, on prend la décision demain à 11h du matin. J'avais rien fait encore. Donc j'ai griffonné 2-3 conneries sur un bout de papier à 10h30 du soir, j'ai montré à ma femme, qui a ri. Je me dis, c'est bon signe.
Votre premier public, en fait.
Oui, voilà. Mais je l'ai séduite en partie en la faisant rire. En lui préparant des bons petits plats et en la faisant rire. Et puis le reste, ça vous regarde pas. Mais j'ai apporté ça au journal et c'est moi qui ai été choisi. Donc j'ai commencé à publier le 22 mars. Et puis chaque semaine, 5 dessins. Et au bout de quelques semaines, on a reçu du courrier, pas toujours encourageant. Première lettre anonyme, monsieur, votre ours ne me fait pas rire. Bon, j'ai continué. Et puis, il y a eu des lettres plus flatteuses. Et au bout de 6 mois, le chat était devenu la mascotte du journal. Et ça s'est plus jamais arrêté.
Ich hatte viel Bekümmernis, la cantate BWV 21 de Jean-Sébastien Bach, interprétée par les solistes baroques anglais, le chœur Monteverdi sous la direction de John Elliott
Gardiner.
Gardiner, ah, voilà.
Oui. Ça veut dire, ça fait beaucoup d'affliction dans la langue originale.
C'est une cantate qui, au contraire, donne l'impression de lumière, alors que on avait de l'affliction.
Ben oui.
Et Bach a écrit sur son catalogue personnel que cette cantate pouvait être per ogni tempo, pour n'importe quel moment. Ça veut dire que c'est pas pour une célébration particulière. Vous, ça correspond à quoi dans votre vie, Philippe Gueluc, justement?
Ben, c'est celle que je préfère de toutes. C'est celle qui me transperce d'émotions. Que vous dire que, alors ça, c'est, voilà. Parfois, on peut sécher sur une réponse en disant, mais non, j'aime, point barre, j'aime, ça me transporte, ça m'emporte, ça me bouleverse. C'est la perfection. C'est à la fois léger. C'est à la fois quelque chose qui vous soigne l'âme. Et c'est en même temps plein de mélancolie. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les musiques des Balkans. C'est à la fois la joie et la tristesse en un seul sentiment. Et ce sentiment n'a pas de nom. Je crois.
Mais ce qui est frappant, en tout cas, quand on vous écoute depuis le début de l'émission, Philippe Gueluc, on rigole bien, c'est vrai, vous nous faites rire. On le constate aussi quand on lit Le Chat, évidemment. Et pourtant, vos choix musicaux sont profonds. Celui-ci, effectivement, j'avais une grande affliction.
Oui.
Ça nous attire vers la lumière. Il y a une part de vous qui est sombre.
Oui, forcément. Je veux dire, au fond de moi, dans mon petit cœur, il y a des choses qui sont contradictoires, qui dans ma tête me posent question. Il y a là, comme je suis pas quelqu'un qui est ni croyant ni, je suis athée profondément, et donc la brièveté de la vie me pose problème, la souffrance des autres me chagrine, et je vais essayer de faire de ce passage sur la terre quelque chose de joyeux. Néanmoins, d'où la rumba du chat, tchiki tchiki tchik, hein,
aïe,
tout va
aïe,
bien.
Aïe, ouais.
Et puis, en même temps, d'essayer d'avoir apporté. Vous m'aviez demandé de dire une des phrases du chat en entrée de jeu, le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres. Voilà, je me dis, si c'est ça que j'aurais pu participer à faire, ben voilà, le passage n'aura pas été inutile. Je me dis, ça doit être juste pas terrible de se dire qu'on a traversé tout ça sans rien avoir marqué, juste en ayant porté son fardeau ou en s'étant amusé comme un fou. Oui, et puis voilà, on essaye tout de même, avant le grand plongeon, de se dire qu'on laissera quelques ronds dans l'eau.
Cherubino, Non so più cosa son cosa faccio de l'acte 1 des Noces de Figaro de Mozart avec l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg et avec à la baguette Marc Minkowski. C'est Mozart, ça fait partie de vos compositeurs chéris, Fibuluc.
Oui. Tiens, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, il est pas mauvais, lui. Mais il fait partie de cette, je veux dire, la mâchoire me tombe quand j'écoute du Mozart, quand je regarde du Picasso, quand je vois un film de Chaplin, il y a comme ça quelques génies absolus. Et je me dis, mais waouh, tout est beau, tout est la perfection, tout est grâce, tout est inventivité, tout est créativité.
Et puis on le reconnaît parmi tous.
Bah oui. Mais comment est-il possible? Parce qu'on est quand même tous constitués de poumons, un cœur, de jambes, etc. Et pourquoi certains comme ça ont reçu tout ça, le don? D'où est-ce que ça vient? C'est une question qui me hante, à laquelle j'aurai jamais de réponse. Alors bien sûr, il y a l'éducation. Bien sûr, il y a l'exemple. Bien sûr, tout le monde n'a pas été le fils de Léopold Mozart. Mais comment se fait-il que...
Avec cette impertinence qui est présente, très présente dans l'œuvre de Mozart, et qui me conduit à cette question, Philippe Gueluc, vous, l'impertinence, c'est quelque chose, vous disiez avoir lu, je crois, Harakiri très jeune, vous étiez fan de ciné.
Ouais.
L'impertinence, c'est dans votre ADN, c'est un besoin de faire entendre une colère, mais avec douceur.
Oui, et avec le sourire, jamais avec violence, sauf si on devait faire du mal à ce que j'aime. Là, je pourrais devenir un tigre fou, mais je pense que la violence peut être là, derrière un sourire. On peut dire des choses très très fortes avec amabilité.
Mais alors justement, quand vous dessinez, vous réfléchissez, comment est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez une forme de censure, d'autocensure à un moment où vous dites là, je peux pas le dire comme ça?
Non, je ne me censure, honnêtement, je me censure pas. Mmh. Je sais qu'il y a deux limites que je me pose. Alors, la représentation du prophète, la question se pose même plus. Je trouve des subterfuges. Le chat, par exemple, a dit un jour, au fond, si le prophète avait eu un frère jumeau, lui, on aurait pu le représenter sans que ça pose de problème. Mmh. Ben voilà, je ne réponds pas à la question, mais je fais une pirouette et un pied de nez. Mmh. Et sur autre chose, j'essaye de ne pas blesser directement des personnes, en traitant des sujets plutôt généraux que des sujets particuliers. Et en tout cas, je ne m'attaque jamais à des gens en faiblesse. Si je dois le faire, c'est plutôt à des gens qui sont plus forts que moi et qui donc ont des armes, hélas, redoutables pour se défendre.
Mais du moins, vous dites toujours ce que vous avez envie de dire.
Ah oui.
Thank you.
Un extrait du concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 61 de Ludwig van Beethoven, interprété par David Oistrakh, que vous avez reconnu, Philippe Geluck, et l'Orchestre national de la radiodiffusion française. Mmh. Et c'est André Kluytens qui est à la baguette. Ouais. Vous avez reconnu le jeu de David Oistrakh.
Et c'est incroyable parce que ça me vient de l'enfance aussi, parce que mon père le vénérait et qui me faisait écouter et qui me montrait la qualité de l'interprétation. Et là, quand on a commencé à écouter, puis on bavardait, parce que pendant les disques, on bavarde un peu, il faut l'avouer à l'auditeur. Oui. Et tout à coup, j'ai senti que j'avais la chair de poule, et je vous ai dit, tiens, c'est Oistrakh, et vous m'avez dit oui. Et je le reconnais je sais pas comment, mais c'est comme ça.
Oui, et ça fait partie des œuvres que vous écoutez tout le temps. On faisait référence à cette œuvre qui a été composée en 1806, comme le quatuor numéro 8 de Beethoven qu'on a écouté tout à l'heure. Et justement, quand vous travaillez, comment ça se passe? En fait, quand on vous lit, on a la sensation que les dessins, les idées peuvent venir à tout moment.
C'est le cas.
C'est le cas.
Oui. Sauf, je me l'interdis pendant les repas entre amis. Je dis pas qu'on a des discussions sinistres, hein, mais on rit, on vanne, etc. Mais je prends pas des notes, jamais. Oui. Non, ça serait l'horreur. Pendant les moments d'intimité, les moments en famille, avec les enfants, les petits-enfants, les vacances, là, je pose le crayon et je ne m'autorise pas ce genre de réflexe que j'ai dans la vie normale. Mais si je suis seul dans le train, si je suis dans le métro, si je suis chez moi, si je suis à ma table de travail, qu'il y a une idée qui me traverse la tête, poum, je la note. Comme, d'ailleurs, des musiciens note 3 ou 4 signes, notes, pour se dire, tiens, il y a une mélodie qui m'a traversé la tête et il ne faut pas que je l'oublie. Par exemple, le trait du diable de Tartini, l'histoire est magnifique, alors je ne sais pas s'il est vrai, on ne pourra jamais savoir, mais il aurait donc rêvé que le diable entrait dans sa chambre, s'emparait de son violon et lui jouait un morceau absolument éblouissant. Il se réveille en sueur, le diable n'est pas là en personne, mais le violon est là. Il se précipite sur le violon pour essayer de rejouer. Et il a tout de suite foncé vers sa plume et vers une partition pour noter les notes qu'il avait encore dans la tête. Et il a dit « Je ne suis jamais arrivé à les écrire toutes, tant ce morceau était inhumain par sa virtuosité. » Il en a fait un morceau qui est certes agréable, mais lui a toujours dit que ça valait pas tripette par rapport à ce qu'il avait entendu dans son rêve.
On va devoir se quitter, wow. Philippe Geluck, déjà, la rumba du chat chez Casterman avec Chiki Chiki Chika Yayay qui vient de paraître. Et puis, vous avez évoqué Mozart tout à l'heure et Charlie Chaplin, et je me dis, c'est peut-être ça, finalement, la danse hongroise en sol mineur de Brahms que vous aimez comme une petite gourmandise, en fait, comme vous la chantez sous votre douche.
Oui, ça peut m'arriver de la chanter sous la douche, et je vous l'ai demandé, je crois, dans une interprétation particulière, parce que elle, en revanche, Karajan, je trouve que elle, au contraire, je l'ai entendue dans plein d'interprétations, et j'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi péchu. D'ailleurs, il la joue beaucoup plus rapidement que beaucoup d'autres, et je trouve qu'elle prend tout son jus.
Et j'imagine qu'il y a une petite référence au dictateur de Charlie Chaplin. Enfin, puisque vous êtes fan à ce point-là de Charlie Chaplin, ça, il doit y avoir une résonance entre toutes ces interprétations, où lui la rend vive.
Absolument. Et peut-être qu'il souligne ce que Karajan donne par ailleurs dans son conduisage. C'est pas le bon mot.
Dans sa direction. Un grand merci.
Merci.
Philippe Geluck. Et puis un très joyeux Noël avec l'oratorio de Noël de Bach.
À propos,
la caisse.
Joyeux Noël à vous et à tous vos auditeurs.
Oui. La rumba du chat chez Casterman, c'est signé Philippe Geluck. Merci. Herbert von Karajan dirige l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans cette danse hongroise en sol mineur de Johannes Brahms. Pour terminer cette émission en compagnie de Philippe Geluck qui était l'invité de Musique et Moi ce matin. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi. Un grand merci à Manon Houssin qui était à la prise de son ce matin. C'est Sophie Pichon qui a réalisé cette émission accompagnée de Charlotte Landru Chandès. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain, 11h. Bonne semaine.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.